Résonance, Alain Goudard, bonjour et bienvenue à tous. Résonance, un grand amphithéâtre à ciel ouvert, à l'écoute des nouveaux vents de la création. Résonance part sur les routes des régions pour aller à la découverte d'initiatives, de projets culturels et artistiques pour d'une part mieux s'en parler et d'autre part confier la parole aux porteurs de ces initiatives. Notre émission d'aujourd'hui nous conduit au cœur des missions d'une association départementale, l'ADIM de l'Ain, née en 1975 par la volonté du Conseil départemental de l'Ain et de la Direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes. Une association qui œuvre depuis maintenant 40 années en faveur de l'aménagement culturel et artistique du territoire départemental. Cirque, théâtre, musique, danse, art de la rue, l'ADIM de l'Ain est un outil précieux pour que tout un chacun, amateur ou professionnel, puisse d'une part avoir accès aux pratiques artistiques et d'autre part faire vivre, enrichir, exister, se développer le spectacle vivant dans toute sa diversité et sa pluralité. Les pratiques artistiques représentent effectivement des espaces dans lesquels la rencontre humaine, la découverte d'autrui, de l'autre est majeure et où peut s'effectuer également une redistribution des rôles, des compétences, des places et des savoir-faire. C'est pourquoi j'emprunterai volontiers les propos du philosophe Jean-Luc Nancy lorsque, notamment, il écrit, je cite, « Je crois qu'il faut être très vigilant, voire soupçonneux, vis-à-vis de tout ce que les mots comme art ou esthétique peuvent véhiculer de décoratif. L'important n'est pas d'être présent dans le décor, mais dans la scénographie. L'art n'est pas un moyen de quoi que ce soit, c'est le nom de l'ensemble des gestes par lesquels l'homme forme, se forme lui-même et donne forme au monde dans lequel il vit. » Fin de citation. Alors, l'ADIM de l'Ain, à travers ses différentes missions, est un outil de médiation qui irrigue depuis 40 années le département de l'Ain. 75-2015, c'est l'occasion pour cette association de fêter au cours de cette saison 2015-2016 ces 40 années de rencontres, de partenariats, de réalisations. C'est la raison pour laquelle Résonance et son émission a choisi, avec son émission radiophonique, de s'associer à cet anniversaire et que nous avons installé nos micros dans les locaux de l'ADIM de l'Ain à Pérona. Résonance sur Radio B, émission spéciale, 40e anniversaire de l'ADIM de l'Ain. Pour évoquer l'action, le rôle et les missions de l'ADIM de l'Ain, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs invités autour de ce micro. Et tout d'abord, Hélène Maréchal, présidente de l'ADIM de l'Ain, conseillère départementale du canton de Bourg-en-Bresse 1. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci, bienvenue à vous également.
Merci.
Nous sommes ravis de vous accueillir.
En tout cas, très heureux de ce moment. À vos côtés, Claire Marinoni, directrice de l'ADIM de l'Ain.
Bonjour.
Bonjour. Et puis, bien sûr, sont également présents à nos côtés, autour de cette table, des acteurs de terrain, des partenaires avec lesquels l'ADIME de l'Ain travaille depuis plusieurs années, notamment dans le champ de l'accès à la culture, aux pratiques artistiques avec et pour les personnes en situation de handicap. Plaisir d'accueillir aussi Jean-Paul Godot, membre de la compagnie de danse Passaros, une compagnie qui conçoit la danse comme un espace de rencontre ouvert à tous, dont aux personnes en situation de handicap. Bonjour.
Tout à fait, bonjour.
Et bienvenue. À vos côtés aussi également, Gérard Broyer. Alors Gérard Broyer, président de l'association Accord Musique de Saint-Denis-les-Bourgs, une école de musique qui accueille depuis plusieurs années des enfants, des adultes, également en situation de handicap et bien sûr les autres. Mais il y avait aussi cette particularité-là. Bonjour.
Et oui, bonjour.
Bienvenue. Et puis enfin, Jean-Pierre Barbosa, éducateur, musicien de l'ESAD de Tréfort, qui dépend de l'ADAPI de l'Ain, membre des percussions de Tréfort, ensemble atypique, qui associe des musiciens en situation de handicap mental et des musiciens valides, et qui est l'un des deux ensembles professionnels de résonance contemporaine.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Alors, peut-être, Hélène Maréchal, je reviendrai vers vous. En 1975, les élus du département de l'époque s'engagent à accorder une place plus importante à la culture, à ce qu'elle soit plus proche justement de ses habitants, de ce territoire, en créant une association départementale, l'ADIME de l'Ain. La création de ces associations s'est multipliée pendant toute cette époque au sein des départements. Et à un certain moment donné, chacun des territoires de notre territoire national avait mis en place une structure telle que celle de l'ADIME de l'Ain. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, le paysage a un peu changé dans ce domaine. De nombreuses associations départementales ont disparu, ou pour certaines, elles se sont retrouvées, intégrées au sein des services culturels des départements. Dans la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, composée aujourd'hui de 12 départements, on constate qu'aujourd'hui, la présence de trois associations départementales, dont l'ADIME de l'Ain. De notre côté, on ne peut que se réjouir que cette structure soit encore présente, encore dans notre territoire. Alors la question que je voulais vous poser, c'est vous prenant bien sûr la présidence de cette association, portant ce regard aussi plus large de cette région, mais aussi de l'importance que peut revêtir la présence d'une telle structure au sein des départements. Comment, à vos yeux, justement, ce type de structure vous paraît ô combien importante à continuer d'exister, bien sûr dans notre territoire, mais aussi au regard de ce que je viens un petit peu d'exposer au travers de la région qui se présente aujourd'hui complètement différente qu'à une certaine époque et qu'effectivement peu de conseils départementaux ont choisi de préserver finalement cette force d'action, de propositions aussi de projets et puis de liens, parce que ça aussi je crois que c'est un aspect extrêmement important, de liens entre la pratique amateur, liens entre la pratique professionnelle et tous les lieux d'enseignement et de pratique de la culture.
Oui, en effet, l'ADIME de l'Ain qui existe depuis 40 ans a beaucoup évolué au fil de ces années. Vous soulignez le fait qu'il reste aujourd'hui trois associations de ce type au sein de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors c'est important, c'est révélateur. En ce qui concerne le département de l'Ain, c'est vrai qu'il y a toujours eu une volonté politique forte des élus depuis 1975 d'accompagner l'ADIME, de maintenir les missions de l'ADIME, de les conforter même et de rester fidèle à cet engagement culturel en faveur de l'ensemble des territoires départementaux. Même au moment où l'État s'est désengagé de l'ADIME de l'Ain, le département est resté aux côtés de l'ADIME, a pris le relais pour maintenir les missions. Donc je crois que d'abord, il y a une volonté politique forte qui s'inscrit dans la durée au niveau du département de l'Ain, donc d'avoir cette volonté, cette présence importante de la culture et de l'accompagnement des porteurs de projets, des collectivités, des artistes, des compagnies. Donc c'est une volonté politique forte. Et puis également, c'est peut-être lié aussi à la structure de l'ADIME, à sa nature juridique, à son modèle associatif qui permet sans doute peut-être une souplesse, une réactivité qui permet aussi de s'adapter, de répondre à aux différents axes des différentes politiques culturelles au fil des années, de savoir s'adapter aux nouveaux enjeux, de rester très à l'écoute. On a vu que la DIM s'est aussi beaucoup inscrite plus récemment sur les arts de la rue, les arts
Tout
du
à
cirque.
fait.
Voilà, donc je crois que c'est important aussi que grâce à une association telle que la DIM, on parvienne à assurer une diversité de l'offre culturelle sur l'ensemble du territoire et une qualité dans les pratiques et dans l'accompagnement.
Je crois que c'est important, effectivement, ce que vous soulevez. Vous appropriez l'histoire, bien évidemment. Là aussi, dans ce qu'on entend, effectivement, il y a aussi se projeter aussi également en termes d'outils. Vous soulignez l'importance de cet outil. Quelles vous sembleraient à vos yeux, à l'heure d'aujourd'hui, les priorités pour vous dans l'instant que nous traversons aujourd'hui, et vous soulevez bien sûr les baisses de dotation de l'État, et aussi toutes ces modifications qui contraignent aussi fortement les départements, mais aussi cet enjeu culturel ô combien important quand on voit les événements qu'on a vécus tous, bien sûr, au mois de novembre dernier, et qu'on sent bien que la culture est aussi quelque chose, un espace extrêmement important pour qu'on arrive à redécouvrir l'autre, à prendre confiance en l'autre, et que c'est peut-être un espace où on peut essayer de se rencontrer, en tout cas, différemment que simplement sur des
Oui, bien
rapports
sûr.
d'ethnie ou de race ou de quelque autre fonction, en tout cas.
Oui, vous avez entièrement raison. Je souhaite sincèrement que le département de l'Ain soit numéro un aussi en termes d'exemplarité dans son accompagnement culturel et dans sa capacité à rendre accessible la culture à tous. Des efforts considérables qui sont faits par le département. Je l'évoquais tout à l'heure, la volonté forte du président Damien Abad, de la vice-présidente en charge de la culture, Caroline Terrier. C'est vrai aussi que cette exemplarité du département de l'Ain, si elle peut rayonner au travers de la politique du département et au travers des missions qui sont confiées à la DIM, je crois que ce sera véritablement important. La culture est un vecteur essentiel de valeur, de partage, de cohésion sociale. À ne pas négliger. Et vous l'évoquez, dans cette période compliquée, troublée, douloureuse, en perte de repères, où
Oui,
notre
tout à fait.
identité peut être aussi mise à mal, où on a besoin de se retrouver, de ne surtout pas lâcher le vivre ensemble et le partage. La culture a un rôle essentiel à jouer. En tout cas, moi, c'est ce que je vois comme présidente de la DIM. Je vois très bien les messages qui vont en ce sens de la part de la majorité départementale. C'est le projet que nous portons au niveau de la DIM et que nous aurons vraiment à cœur de mettre en œuvre dans ce cadre-là et sur le territoire départemental. C'est véritablement essentiel. La culture est un bien commun précieux, j'aime à le dire, à
Vous avez
partager,
raison.
voilà, avec un rôle essentiel de cohésion sociale et de vecteur de valeur et de rassemblement.
Alors, Claire Marinoni, vous dirigez depuis déjà quelques années la DIM de l'Ain. D'autres, bien sûr, vous ont précédé jusque-là. Hélène Maréchal soulignait justement l'engagement de la collectivité départementale pour permettre justement la pérennisation de cette structure depuis toutes ces années. Quel regard, de votre point de vue, portez-vous, je dirais, déjà un petit peu sur ce parcours et que vous avez pu réaliser dans cette continuité, aussi avec votre équipe, on en parlera aussi, la DIM de l'Ain, c'est une équipe aussi également.
Tout
Hein,
à
ça, je
fait.
crois que ça, c'est important de le souligner,
Tout à fait.
parce que sans elle, les choses ne pourraient être, bien évidemment. Mais quel regard, oui, portez-vous, je dirais, depuis que vous êtes là, il y a ce passé, bien évidemment, mais aussi aujourd'hui, dans votre connaissance maintenant de ce territoire, de sa vie culturelle aussi, de ses enjeux, quel regard portez-vous un petit peu sur ces années passées ici à la direction de la DIM de l'Ain?
C'est quelques années, c'est quasiment 10 ans
Oui,
maintenant,
voilà,
donc
c'est un parcours, hein,
effectivement,
déjà.
ça commence à me permettre d'avoir un certain recul. J'ai réfléchi à cette question en me disant, mais finalement, qu'est-ce qui sous-tend notre activité? Qu'est-ce qui fait lien entre tout ça? Et je pense que ce qui fait le lien, le plus petit dénominateur commun, c'est la question du choix. C'est-à-dire que, Madame Maréchal l'a rappelé, on est à la fois une structure qui est proche de la politique culturelle, on la met en œuvre, on l'accompagne. On est une structure associative, c'est important de le rappeler. On est un lieu d'échange. Mais tous les dispositifs que nous avons conçus, alors effectivement, on peut parler de l'évolution des esthétiques, l'évolution des pratiques, mais c'est la question du choix. Comment peut-on permettre aux gens de faire des choix de pratiques? peu importe ce que les gens décident de pratiquer, qu'ils décident d'avoir une pratique de l'ordre des arts de la rue, de l'ordre de la danse contemporaine, de la danse classique. Ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que ça soit des choix, ce ne soit pas des choses qui soient subies, mais bien des choses qui résultent d'une démarche, de processus, de tests, de rencontres. Et je pense que si je devais retenir un élément qui a sous-tendu notre travail, c'est faire en sorte de travailler avec des citoyens qui puissent faire des choix et leur amener des outils de choix.
Le philosophe Jacques Rancière, justement, pose aussi un peu, au travers de ses soins, de ce rapport au choix, si je peux dire un peu, mais ce qui met bien l'importance un peu de rapport à ses choix, par exemple, il dit, je le cite, « L'homme pense parce qu'il existe, reste que la pensée doit se dire, se communiquer à d'autres êtres pensants. »
Tout à fait.
Et là, on rencontre aussi que là, la question du choix, c'est-à-dire
absolument,
que du coup...
on peut se faire que de cette façon-là.
Voilà, on ne rentre pas forcément dans des dogmes esthétiques ou dans des doxas artistiques ou esthétiques, mais que c'est bien l'individu et de sa propre pensée qui est importante. Mais après, qu'est-ce qu'on peut lui offrir, justement, pour permettre que ce soit ceux-là qui prennent place, qui se développent, et qui, on le souligne avec Madame Maréchal, viennent nourrir un commun, en tout cas, et donner toute une logique à l'existence d'un commun qu'est notre société d'aujourd'hui.
Je ne peux qu'être d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est aussi pour ça qu'on essaye de réfléchir sur la différence entre un objectif et un support. L'ADIM était a fondé son action beaucoup sur la formation. C'était l'activité de départ de l'ADIM.
Au départ, c'était bien cela, oui.
On faisait beaucoup de formation et on en fait de moins en moins parce que la formation n'est absolument pas une fin en soi. On peut pas ne faire que ça sans objectif. Si on utilise la formation, elle doit être au service de quelque chose. Elle doit être au service d'un projet. Elle doit être au service d'un projet individuel, de parcours professionnel ou amateur. Elle doit être au service d'un projet de création, pourquoi pas. Mais il est effectivement indispensable de bien faire la différence entre ce que l'on choisi comme objectif et les supports. Les supports, on peut les changer, et d'ailleurs on les change, ça fait 40 ans qu'on les change. On multiplie les actions, les initiatives, les formes d'initiatives, et c'est en ça aussi que notre structuration associative est importante, parce que ce sont aussi les associations et les acteurs de terrain qui nous aident à développer ces nouveaux supports. Mmh. Mais ça n'est que des supports. Notre objectif derrière, il doit toujours être maintenu et rappelé. Se réinterroger fait partie du fonctionnement d'une association et c'est ce qu'on essaye aussi de faire en permanence.
Donc du coup, c'est un peu la question de la chaîne, je dirais, un petit peu des finalités aux pratiques et des pratiques aux finalités qui se trouvent en permanence, questionnées.
Tout à fait. C'est un mouvement permanent, c'est une interrogation permanente. C'est ça aussi le sens de notre action. Mmh. C'est la rencontre, la confrontation, l'expérimentation. Et c'est ce qui fait ce mouvement permanent et cette richesse permanente, parce que le territoire étant lui-même riche de porteurs de projets, d'initiatives, notre structure doit forcément fonctionner de cette façon-là.
Alors on a choisi effectivement dans cette émission qui s'inscrit dans ces 40 ans d'expérience, de rencontres et de perspectives, de donner aussi un axe particulier qui n'était pas celui de l'ADIM de l'Ain il y a longtemps d'ailleurs, et qui est, je dirais, une préoccupation qui a grandi d'ailleurs depuis que vous êtes arrivé ici, tout au long de ces 10 années, de fait d'aussi agir, en tout cas, et d'être aux côtés d'acteurs qui se sont intéressés à des publics assez marginalisés d'accès à la culture, de pouvoir aussi accompagner à certains moments donnés cette piste-là, ces actions-là, et comme on vient un petit peu de le soulever, comment aussi, si on soulève que chaque individu pense et que c'est cette pensée qu'il doit pouvoir exprimer et communiquer à d'autres, bien sûr, toutes ces personnes en fragilité sociale, handicapées ou autres, ont aussi leur place dans ce dispositif-là. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on a du mal à faire que la parole de ces personnes soit dans l'espace public, en tout cas entendue dans l'espace public. Donc là, c'est une nouvelle compétence. Et donc, du coup, on va peut-être, si vous voulez bien, Claire Marugnoni, en aller là et se dire... Nous avons fait un choix de partenaire dont nos invités sont autour de la table. Peut-être simplement d'en signifier pour vous l'intérêt de fait que ces partenaires soient autour de la table aujourd'hui.
Alors, vous avez raison de le rappeler, c'est un choix.
Là aussi.
Il y a plein de raisons à ça, des raisons historiques, des raisons de présence. Il y a plein d'acteurs sur le territoire qui montent des actions.
Il est très riche. Hein.
Très, très riche, de façon ponctuelle, de façon plus permanente. Alors... Je me suis aussi interrogée sur le sens de cette invitation et ce qui me parlait ou ce qui nous avait parlé au niveau de la DIM. Bon, on va commencer par les percussions de très fort et résonance. Ça a été une interpellation immédiate, en tout cas quand moi je suis arrivée sur le territoire. C'était une rencontre avec Résonance. Il y a eu des interrogations, une rencontre avec vous, mais pas que, avec l'équipe. Il y a une espèce de choc parce que c'était vraiment un message qui était fort, qui était intelligible, qui était porté, qui était relayé, et on ne pouvait pas ne pas s'y intéresser, on ne pouvait pas ne pas travailler avec vous. C'était pas possible parce que effectivement c'était une évidence. Donc Résonance pour moi c'est l'expérience et la diversité, d'où le sens. Effectivement de cette invitation. Passaro, ça a été un choc très différent. J'ai été invitée par Émilie Borgo à assister à
la chorégraphe, fondatrice de Passaro.
J'ai été invitée à assister à une séance de travail sur un groupe mixte. Ce qui m'a frappée tout de suite, c'est que j'étais en face de quelque chose qui était un projet artistique. Et que la question des publics, elle venait après. La proposition d'Émilie, c'était avant tout un projet artistique. Et ça, c'est fondamental, parce que ça peut sembler évident, mais ça ne l'était pas forcément pour moi au départ. C'est-à-dire qu'on ne se trompait pas de propos. On était sur comment construire un projet, comment on y associe un maximum de gens. Et ça, c'est quelque chose qu'Émilie, évidemment, véhicule, relaie et pratique. On le voit dans ses créations. Donc ça a été pour moi la force du projet artistique de Passaros.
Là, c'est quelque chose d'essentiel, effectivement.
Je pense que c'est fondamental. Et voilà. Donc ça a été la rencontre là-dessus. Et par rapport à l'école de Saint-Denis, ça a été effectivement, qu'est-ce qu'une école de musique ? Quand on travaille dans une association comme la DIM, c'est une question qu'on se pose en permanence. Qu'est-ce que c'est qu'une école de musique ? À quoi ça sert ? Et Saint-Denis, le travail de Saint-Denis, c'est enseigner et bien plus encore.
Ça va au-delà.
Parce que c'est une école qui est très rapidement venue nous rencontrer, nous présenter ses projets. Et ces projets, ils sont extrêmement larges. La question de la rencontre artistique est au cœur de la proposition. C'est aussi pour ça qu'on a énormément de partenariats. C'est aussi pour ça que quand cette école nous a sollicité sur son envie de pouvoir accueillir le maximum de monde de la même façon, ça nous a semblé important de créer aussi ce pont, cette relation avec Résonance. Et c'est une histoire qui a commencé. Donc voilà, pour nous, Saint-Denis s'est enseigné et bien plus encore. Donc c'est extrêmement important. Donc ce sont des choix. On regrette évidemment de ne pas pouvoir inviter plus de monde.
Mais on pourra le faire au cours d'autres
émissions.
Et on le fait régulièrement.
On continue à travailler effectivement avec d'autres associations. Mais en tout cas, sur ces trois projets-là, ce sont les raisons. Ils sont peut-être un peu maladroitement exprimées. Mais en tout cas, c'est les raisons qui font qu'aujourd'hui, on est autour de cette table ensemble.
Résonance sur Radio B, émission spéciale, 40e anniversaire de la DIM de l'Ain. Alors, après cette introduction de Claire Marinoni, je vous propose, Jean-Paul Godeau, effectivement, qu'on évoque maintenant un petit peu plus précisément la compagnie Passaros, le travail de sa chorégraphe, qui est Émilie Borgo, et aussi un petit peu ce qui a présidé justement à l'existence de cette compagnie et de ces initiatives autour de la danse.
Alors, d'abord, je voulais excuser Émilie qui ne peut pas être présente ce matin puisqu'elle est en intervention auprès justement d'un public d'une école. Elle m'a donc demandé de pouvoir la remplacer. C'est difficile pour moi de parler, peut-être plus facile de parler un peu d'Émilie parce qu'elle n'est pas là. Je dirais que l'idée que j'ai de la création un peu de la compagnie Passaros, c'est du... double regard qu'a pu porter Émilie, d'une part en tant qu'ethnologue. Oui. L'ethnologue, c'est quelqu'un qui est curieux des autres et qui aime les autres, fondamentalement. Et puis d'autre part, en tant que danseuse et chorégraphe. Et Émilie a nourri son travail et a nourri sa réflexion autour de cette curiosité et cet amour de l'autre. Si bien que son souhait était de pouvoir proposer un travail auprès de publics très différents. Alors ça pouvait être auprès de publics dans les quartiers, à la campagne, dans les écoles, dans les maisons de retraite, je prends volontairement des oppositions, dans les hôpitaux, dans les prisons, et auprès de publics handicapés. Quand on entend parler de publics handicapés, on peut avoir des visions très différentes. Dans l'île de Pâques, par exemple, on parle de, au lieu de parler de publics handicapés, on parlait de publics autrement valides. Et je pense qu'Émilie s'adresse à des publics autrement artistes.
Valide. Et artistes.
Autrement artistes. Et je pense que c'est ça ce qui va nourrir un petit peu le travail de la compagnie. Hein, depuis maintenant plus de 15 ans, puisque la compagnie s'est créée en l'an 2000, avec effectivement des propositions. Et tout à l'heure, Claire parlait effectivement de public mixte, effectivement, dans les différentes formes de travail qui sont proposées par la compagnie Parsaros, il y a toujours la volonté d'avoir cette mixité et cette croisée des publics et des regards.
Je pense que, voilà, puisque Émilie n'est pas là, il me semblait intéressant aussi de reprendre un de ses propos. Si je la cite, elle dit ceci, « Comme tout être humain, je danse depuis la création de ma première cellule. Il me tient particulièrement à cœur de partager l'acte de danser avec tous et de transporter la danse dans des espaces géographiques et physiques où elle est peu présente. »
Tout à fait.
Voilà. Du coup, ça résume aussi tout à fait ce que vous venez de dire, Jean-Paul Godeau, par rapport à cette philosophie de départ et qui la guide encore, bien évidemment, aujourd'hui.
Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on rencontre dans la danse, dans certaines formes de danse ou de certaines ouvertures de la danse depuis maintenant des dizaines d'années, et en particulier des choses qui ont été reprises dans les années qui ont été créées, on va dire, dans les années 60-70 autour de la pratique d'Anna Halprin, par exemple, avec cette volonté d'associer effectivement et d'ouvrir la pratique de la danse, la pratique artistique auprès de, je disais, de publics différents, auprès de corps différents et aussi avec des messages politiques au sens de s'intéresser et s'ouvrir à la société et pas uniquement d'être dans un public, dans une démarche de représentation, mais dans une démarche de présentation de soi, de présentation des autres et de présentation de ce qu'on en a à ce que l'on veut parler. Personnellement, moi, je travaille dans un établissement pour personnes handicapées physiques, lourdement handicapées physiques, adultes. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement, des personnes qui ne se vivaient et qui n'étaient vécues par leur entourage, par leurs proches, par nous, éducateurs, comme des personnes handicapées, ces personnes ont pu effectivement montrer la richesse de plein de facettes qu'elles n'envisageaient même pas avoir. Et je me rappelle des échanges avec des familles, par exemple, découvrant leurs proches, leurs enfants, leurs parents, sous un regard qui n'était pas celui du handicap, de la maladie, de la limitation, on va dire, mais effectivement sous le regard et sous l'image de la création.
Est-ce qu'on peut dire que les pratiques artistiques, justement, bien sûr, ça dépend sous quel angle on l'envisage, effectivement, mais si on l'envisage un petit peu dans celui de la teneur de vos propos, à l'instant, peut être un espace de redistribution des rôles, des compétences, des places, et forcément va modifier le rapport des étiquettes. C'est-à-dire que du coup, on va non plus être sur un regard situationnel, mais on va de par le fait même que l'enjeu des pratiques artistiques vont faire apparaître des facettes effectivement différentes de la personnalité, de sa pensée, de sa manière d'être, de s'exprimer, de son regard aussi sur le monde, et que du coup va complètement dépasser effectivement l'étiquette purement personne en situation de handicap. C'est peut-être aussi tout l'enjeu, on en reparlera peut-être avec Hélène Maréchal tout à l'heure, de pourquoi on met des pratiques artistiques aux personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est simplement pour les maintenir dans une place, ou au contraire de les ouvrir à d'autres choses, à d'autres actes, et être pleinement acteurs à part entière d'une culture?
Oui, il me semble qu'on passe d'une vision étriquée d'un corps limité à un corps créatif,
c'est ça.
À une pensée créative.
C'est ça.
On n'est plus dans une pensée limitée, mais une pensée créative, une expression créative. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est non seulement important pour la personne elle-même, mais c'est également extrêmement important pour la vision. Je reprends un peu oui. les propos que vous aviez, l'échange que vous aviez avec Madame Maréchal en introduction, mmh. autour des difficultés du vivre ensemble, mmh. et des limites qu'on peut se donner dans le vivre ensemble. Et bien effectivement, cette réflexion de pouvoir permettre le regard des autres et l'ouverture aux autres avec des publics très très différents, effectivement, c'est une richesse, et c'est ce qui nous permet de pouvoir agrandir notre regard, agrandir notre réflexion, notre étroitesse parfois de vue autour de la prise en compte des autres.
Peut-être, Jean-Paul Godeau, peut-on en quelques mots donner quand même quelques, je dirais, actions concrètes aussi que Passaros, parce qu'il y a des temps forts, il y a différents types de choses, il y a les lundis très forts, il y a différentes choses au cours de ces 15 années qui se sont mises en place et qui ont été vraiment la manière très concrète de mettre en place la philosophie que vous nous exposez à l'instant.
Tout à fait. Alors, je disais tout à l'heure que la compagnie s'est créée en 2000, et dans un premier temps, on a pu mettre en place des ateliers, en particulier aux villageois. Hein, donc une maison d'accueil spécialisée de villageois qui est à Saint-Just, donc tout proche de Bourg-en-Bresse. Et puis très rapidement, il y a eu différentes formes qui se sont faites, avec par exemple des créations qu'il a aussi associé des publics mixtes. Mmh. Une première création en 2004 qui était Ouvrez la porte échappée, dans lequel on trouvait des artistes handicapés et des artistes valides. Par la suite, une création, on va dire même semi-professionnelle, qui s'est nommée Silence. Des festivals comme l'Irrégulier, qui est quand même
troisième édition
l'an dernier. Hein. Et puis, création, on peut aussi citer comme création Bien dans ses pompes, création super-héros, des projets pour 2016. Voilà, alors tout ça, ça s'est fait effectivement avec la volonté d'Émilie, avec la volonté des différents artistes qui participent à ces travaux-là, mais bien évidemment avec le soutien, que ce soit du conseil départemental, que ce soit de la ville de Bourg, de différents partenaires comme le théâtre, différentes villes. Mais effectivement, il y a bien eu ce travail de corrélation entre différentes volontés pour faire vivre la différence.
Résonance sur Radio B, émission spéciale, 40e anniversaire de la Dîme de l'Ain. Alors maintenant, une autre aventure, une autre expérience avec vous, Gérard Broyer, président de l'association Accord Musique Saint-Denis-les-Bourgs. commune de l'agglomération burgienne, une école de musique associative créée en 1997. Et puis peut-être surtout, c'est peut-être ça qu'on peut peut-être retenir pour être aussi dans la continuité de tous les propos que nous avons entendus là tout à l'heure, une école à l'écoute de tous, pardon, au rythme de chacun. C'est un peu, peut-être on peut essayer de voir qu'est-ce qui a fait qu'effectivement une telle école autour d'un tel état d'esprit a pris forme à Saint-Denis-les-Bourgs.
Oui,
les gens, j'imagine, mais
oui, bien sûr. Bah, à l'origine, il y a quand même Jean-François qu'il faut quand même
c'est
citer.
Ça. Jean-François Bidet, voilà.
Hein. Donc, qui est dans cet état d'esprit et qui a été à l'initiative de la création de cette école, quoi, en tant qu'association d'abord. Mais c'est cet état d'esprit, enfin, qui est notre fil de conduite, quoi, et qui est notre philosophie, et puis qui très progressivement est arrivé au problème de ces personnes donc en situation de handicap ou donc qui sont outrement artistes ou autrement valides. Et donc on a vraiment passé et franchi le pas au niveau du problème de l'intégration, parce que c'est aussi ça qui est un peu notre questionnement quotidien. À partir de 2009, donc, quand j'ai pris la présidence, puisque bon, étant de formation psy, donc j'avais
tout à fait
un petit peu plus de facilité pour aborder ce problème. Mais là, je pense que le problème de l'intégration, c'est un problème effectivement d'intégration en acte. Parce que le problème, bon, on va dire, effectivement, on fait un groupe à l'intérieur d'une école, mais le vrai problème, enfin bon, ça ne résout pas le problème, parce qu'à ce moment-là, ça peut être simplement marginalisé, et puis, bon, ils sont à côté des autres, et puis on les donne de temps en temps en spectacle, mais c'est vraiment pas la question.
Parce qu'effectivement, quand on regarde la cartographie de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Rhône-Alpes, nous avons eu une enquête radiophonique qui nous a emmenés dans de nombreux conservatoires. Des conservatoires de région, des conservatoires départementaux, des petites écoles de musique dans la Drôme, en Haute-Savoie, même en dehors de notre département. Et on voit bien que une des difficultés, eh bien, c'est celle que vous soulevez, c'est-à-dire autant on peut accueillir des personnes en situation de handicap, très souvent on va trouver des groupes, des entités à l'intérieur de l'école.
Oui.
Quelquefois, on va trouver des parcours individuels. Ils sont encore assez rares, mais il y en a quand même qui, il faut le souligner. C'est-à-dire, du coup, il n'y a pas de mise en jeu, si je peux dire, du projet pédagogique de l'établissement et de peut-être de sa finalité.
Voilà.
Mais qu'est-ce qu'on fait des autres? C'est-à-dire que, du coup, est-ce qu'on va les mettre dans un coin? Et on va dire qu'on intègre, mais alors ils ne sont pas intégrés du tout à tout ce qui se passe dans l'école.
Et puis on se donne bonne conscience également. On se donne bonne conscience, hein, puisqu'on a créé le groupe spécialement pour eux et on les accueille, enfin bon, on s'occupe d'eux. Mais en fait,
Comment vous le travaillez, ça, à Saint-Denis-les-Bourgs, du coup, cette problématique?
Alors comment est-ce qu'on le travaille? Eh bien, je vais prendre un exemple, hein, tout bête. C'est notre dernière matinée que nous avons eue en janvier. C'était le tour du monde en 80 jours. Hein, donc la mise en
grande aventure.
Voilà, la mise en musique de la grande aventure de Jules Verne. Et donc, les illustrations des différents tableaux donc étaient faites par les différents niveaux de réalisation artistique, enfin, au niveau des instrumentistes. Et puis, il y a eu aussi le groupe de personnes en situation de handicap qui est venu apporter sa pierre à l'édifice du casting, si on peut dire.
C'est combien de personnes aujourd'hui accueillies au sein de l'école ?
Alors actuellement, nous avons 13 personnes donc en situation de handicap, mais institutionnalisées. Hein, et donc on est en convention par exemple avec Saint-Joseph, avec les 4 vents. Et puis
4 vents, juste pour préciser pour nos auditeurs,
donc
la maison justement pour personnes handicapées vieillissantes à Bourg-en-Bresse, qui permet on a peu aujourd'hui encore de lieux comme ceci qui accueillent les personnes handicapées vieillissantes,
ça,
mais donc
c'est
celle-ci participe au sein de l'école.
Voilà, bien sûr. Et puis, nous avons 6 adolescents, j'allais dire enfants. C'est 6 adolescents, donc, qui sont en situation de difficultés autistiques. Et qui, là, c'est exactement le même problème, quoi, du fait de leurs troubles, qui ont des difficultés à être intégrés au niveau d'une pratique collective. Parce que ça aussi, donc, c'est ce que nous avons comme objectif. La musique, c'est quelque chose qui se partage en public et en groupe. Mm-hmm. Et à ce moment-là, donc, de les amener progressivement à monter sur scène et à participer donc, à un projet artistique et musical.
Ça veut dire qu'effectivement, il y a le travail musical avec ces personnes-mêmes et que vous imaginez les possibilités de jonction, si je peux dire, avec les différents départements, si je peux parler aussi ainsi comme oui, ça, de l'école.
Oui, oui.
C'est-à-dire que du coup, au travers d'un projet comme celui-ci, il y a une recherche au niveau de l'équipe pédagogique de faire en sorte que du coup, on brise ces frontières simplement du groupe de personnes handicapées, mais que du coup, voilà. Il se trouve engagé voilà. Lui-même, un type d'individu, ou pas seulement que groupe, dans un élément de pratique collective.
Voilà, et je dirais non seulement au niveau, au niveau des acteurs enfin, ou des élèves, mais aussi au niveau du public. Parce que là aussi, le problème, c'est effectivement de modifier la perception enfin, du handicap ou de la personne en situation de handicap, aussi au niveau, on va dire, de la population, quoi,
bien sûr.
D'une manière large. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés au début, parce que, bon, c'est
quels difficile. Étaient les freins oui, quels étaient les freins? Quand vous parlez de difficultés, qu'est-ce qui vous semblait...
C'est toujours les stéréotypes. Mmh. C'est les stéréotypes, c'est les images, c'est, bon, un handicapé, c'est un handicapé, point à la ligne. Et puis, bon, on les met dans un coin. C'est ce que je disais tout à l'heure, donc un petit peu ce problème de se donner bonne conscience. On les intègre, on veut bien les intégrer, mais on les intègre à côté. Hein, et ils sont intégrés à côté, c'est-à-dire, bon, au niveau de l'établissement, au niveau géographique, mais pas au niveau de l'activité elle-même. Et ça, c'est pour ça donc, que je parlais d'une intégration en acte, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque, au niveau d'un projet musical, on a l'ambition de les faire participer, mais concrètement, quoi, et activement. Hein.
Alors, on peut citer comme ça, avec Claire Marinoni, on évoquait que le terrain était riche, justement, sur le département de l'Ain. Je dirais dans une même philosophie, mais les AT La Frotta, par exemple, oui, avec l'ensemble orchestral qui existe aussi là-bas depuis plusieurs années, et qui va aussi dans cette dynamique, aussi en même temps. Après, effectivement, en tant qu'observateur régulier de ce qui se passe dans notre département, peu d'écoles se sont enclins à cette dynamique-là. Ouais. On sait que, bon, on se disait que les finalités interrogent les pratiques et les pratiques interrogent les finalités. Je crois qu'on est en plein là-dedans, aussi dans l'interrogation aussi de ce que peut-être les lieux d'enseignement spécialisés, justement, de la musique, et à quoi servent-ils, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'on veut faire, et quels hommes ou femmes de demain on a envie d'avoir dans cet élément-là. Donc, il y a un peu toutes ces interrogations, finalement, que vous abordez, finalement,
bien
au
sûr.
Sein de l'école de Saint-Denis-les-Bourgs. Mais là, vous sentez que c'est... vous avez d'autres sollicitations? Par exemple, on parlait de 13 personnes, mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on connaisse cette attention de l'école suscite-t-elle plein d'autres contacts avec d'autres établissements, d'autres personnes en situation de handicap, sans devenir le spécialiste qui serait quelque chose de néfaste, bien évidemment.
Exactement. Mais j'allais justement dire, malheureusement, nous sommes trop sollicités et on n'arrive pas à faire face à toutes les demandes. Quoi. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça quoi, pour l'instant. Parce qu'il faut quand même aussi parler du problème des enseignants. Parce que effectivement, les personnes qui les accueillent, même s'ils ont été très bien formés au niveau de résonance contemporaine dès le départ,
nous avons accompagné effectivement.
Vous nous avez accompagné.
Là, c'est notre rôle de pôle ressources,
magistralement. Mais bon, il faut reconnaître que sur tous les enseignants formés à l'époque, puisque tout notre corps professoral était passé dans cette formation, maintenant il n'y en a plus que 3 quoi qui ont persévéré, parce qu'effectivement, c'est souvent décourageant, c'est difficile, il ne faut pas se voiler la face.
Merci Gérard Boyer. Simplement, les questions que nous évoquons là actuellement mériteraient une émission entière.
Oh,
mais peut-être
oui.
que nous y reviendrons justement,
parce
que c'est des questions fondamentales. Et je vous propose d'accueillir dans quelques instants notre dernier invité. Résonance sur Radio B, émission spéciale, 40e anniversaire de la Dîme de l'Ain. Autre invité, troisième invité, Jean-Pierre Barboza, avec une autre expérience. Vous êtes éducateur à l'ESAT de Treffort, qui dépend de la DPI de l'Ain, et vous êtes membre des percussions de Treffort. Par ailleurs, déjà depuis plus de 20 ans.
D'années, ouais.
Voilà, 20 ans. Donc, engagé à la fois sur un aspect professionnel éducatif, mais aussi dans un projet musical. Et peut-être, justement, il semblerait intéressant d'avoir votre regard sur un parcours de 20 années au sein aussi bien d'un ensemble qu'on va dire un petit peu atypique, hein, puisque les percussions de Treffort associent des personnes en situation de handicap mental, adultes, des musiciens valides, professionnels également, mais aussi des rencontres avec des musiciens amateurs et autres. Et c'est un ensemble qui, au fur et à mesure d'ailleurs de votre présence, a évolué jusqu'à un statut professionnel aujourd'hui. Et peut-être, quel regard portez-vous justement sur une telle aventure comme celle-ci?
Pour moi, ça a été c'était un choc. Quand je suis arrivé il y a une vingtaine d'années, découvrir tous ces oiseaux qui tapaient en tous les sens, et j'ai eu du mal à comprendre le sens tout de suite de ce qui se passait. Par la suite, j'ai vu ce qui jouait. C'était la proposition de permettre à des gens différents d'être un plus pour les autres. C'est pas simplement des poids pour la société, c'est aussi des gens qui peuvent proposer une autre façon de penser, de réfléchir, de faire. Et la musique qui était proposée, finalement, elle était extraordinaire parce qu'elle était autre, mais en même temps elle était commune avec nous, avec ce qu'on est nous. Et il y avait des ponts, il y avait des frontières qui pouvaient se franchir, qui pouvaient se mouvoir. Et voilà, il y avait ce plus pour les autres, pour nous, pour la société, et voilà.
Et de votre place d'éducateur, parce que du coup, votre formation, c'est éducateur donc spécialisé, d'accompagner ces personnes, et puis un jour de se trouver engagé dans un espace artistique, musical, qui vous était étranger jusque-là, ça a fait bouger des choses dans le regard du professionnel de ce fait-là, et dans la manière d'accompagner, de travailler aussi avec ces personnes?
Oui, tout à fait, parce que je n'étais pas musicien. Du coup, quand je suis arrivé dans le groupe et que j'ai été amené à jouer avec le groupe, j'étais handicapé, moi. Et voilà, je ne savais pas faire, je ne savais pas être devant un public, je ne savais pas jouer, je savais... voilà. Et je me suis retrouvé avec un tuteur, Raymond Bettinecci, qui était trisomique. Et c'est lui qui m'a montré le chemin, qui m'a donné de la confiance, qui m'a permis de jouer, d'être là encore là. Voilà, je me suis pas découragé parce qu'il était là et qu'il m'a montré la voie. Donc oui, moi la difficulté d'être différent, je l'ai connue tout de suite personnellement, parce que je n'étais pas musicien et qu'il fallait que je fasse aussi autrement. De la même manière que je ne sais pas lire la musique, je devais faire comme eux, faire de mémoire, enregistrer de manière orale toute la musique. Et du coup, j'ai pu aussi, moi, créer une façon de faire qui est un peu identique à la leur, où je ne suis pas formaté par les codes musicaux. Et du coup... ça m'a été simple de comprendre ce qui se passait pour chacun d'eux.
Ça a donné des clés de compréhension et d'ouverture à ce qui était en jeu.
Voilà. Voilà. Voilà, malgré le fait de ne pas être introduit techniquement par l'instrument, on peut en faire des choses, on peut donner à voir et entendre aux autres, et on peut être intéressant.
Peut-être pour faire un pont, si je peux dire ainsi, entre ce qu'exprimait Gérard Boyer tout à l'heure à l'intérieur d'une autre institution qui est l'école de musique, peut-être votre regard aussi pour simplement voir qu'il y a des natures aussi de problématiques, de freins et de contraintes qu'on va retrouver, effectivement, peut-être d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, comment ressentez-vous, là aussi, au gré de votre expérience, au sein de l'établissement, finalement, une présence artistique au sein d'un établissement comme celui-ci? Donc, on va rappeler, c'est un établissement d'aide de service par le travail, donc là aussi à vocation d'insertion, mais une présence artistique dans un tel établissement, C'est pas sans poser des soucis d'acceptation aussi par une équipe, par un projet, par une manière d'être, etc. En fait, c'est là aussi, Gérard Broyer parlait des professeurs, des autres professionnels, de comment aussi accueillir ces personnes, de comment travailler avec elles, de ce que ça remettait en cause dans les fonctionnements ou dans les postures professionnelles. Est-ce qu'on pourrait faire des ponts assez proches si on regarde à l'intérieur de l'établissement médico-social que peut-être en ESAT?
Ça a été un long chemin pour se faire accepter, pour se faire accepter en tant qu'artiste à part entière, pour que ça ne soit pas vu comme un simple atelier pour passer le temps, mais comme un atelier avec un enjeu majeur, c'est-à-dire de donner à voir et à entendre, et à donner une parole à des gens. Après, à Tréfort, il faut souligner quand même que la présence artistique est assez forte.
Tout à fait.
Il y a la présence de Régis Blondel pour les arts plastiques.
Absolument.
Il y a la présence de Passaros.
Absolument.
Et donc, la présence est acceptée et validée par l'ensemble de l'établissement. Tout le monde n'est pas encore acquis à cette idée, mais on a espoir.
Oui, on va souligner qu'il existe aujourd'hui maintenant entre Résonance Contemporaine et l'ADAPI de l'Ain, une convention d'objectifs et partenariale pour plusieurs années, justement, qui est là pour donner toute la dimension professionnelle maintenant aujourd'hui des percussions de Tréfort, mais aller au-delà, c'est-à-dire aussi de faire que d'autres personnes, que ce soit de l'établissement, mais bien au-delà aussi de l'établissement, tous les établissements de l'association puissent aussi avoir accès aux pratiques artistiques et notamment la musique. Peut-être aussi, pouvons-nous évoquer... très rapidement, finalement, qu'on a parlé de l'ouverture musicale qu'ont ces musiciens, mais ça provoque plein de rencontres d'autres musiciens, c'est-à-dire qui s'inscrivent aussi également dans une pratique, dans le paysage musical d'aujourd'hui, voire même bien au-delà de nos frontières.
Oui, avec les percussions, on est amené à voyager un petit peu partout, en Europe et même jusqu'en Chine. Et ça permet de transporter cette parole un peu partout, et puis de prendre aussi... la température de ce qui se passe ailleurs et de voir que qu'on peut encore aller encore plus loin dans notre recherche musicale et artistique.
Résonance sur Radio B, émission spéciale, 40e anniversaire de la Dîme de l'Ain. Hélène Maréchal, avec ces trois témoignages, avec ces trois expériences, toutes un peu ancrées dans la durée, au sein du territoire, il est important de souligner effectivement que l'Ain, et ça depuis le début des années 2000 finalement, sans parler de pilote, on ne va pas pousser les choses au chauvinisme trop poussé non plus, mais quand même est un espace privilégié, si on peut dire, d'expérimentation justement, de par la présence de ces acteurs bien évidemment, mais a donné lieu effectivement à ce qu'on questionne cette place de la culture, de l'accès à la culture, de manière très pointue et on l'a entendu au travers aussi réflexive de différents personnes ici autour de la table. La Dîme de l'Ain y a été associée, on l'exprimait tout à l'heure avec Claire Marinoni. Je rappellerai aussi l'édition de documents sur lesquels nous avons travaillé ensemble et qui a permis d'accompagner Pratique artistique pour tous, un abécédaire pour accompagner les professionnels, d'essayer d'accompagner, d'éclaircir et d'amener, d'alimenter la pensée. Donc ma question sera assez simple, c'est comment vous verriez-vous dans les prochains mois et semaines, parce qu'on sait bien que c'est un chantier et un long chantier celui-ci, mais comment vous verriez-vous la posture en tant que telle aussi de la Dîme de l'Ain, voire bien évidemment du conseil départemental, dans quelque chose qui nous semble très prégnant, parce qu'il permet de faire rejaillir d'autres finalités que peut-être les artifices quelquefois que l'on voit de la culture, j'emploie un terme un peu fort peut-être, mais quelquefois un peu paillette, qui existe à certains moments donnés. Là, on sent qu'on est sur d'autres fondamentaux et que ceux-ci sont extrêmement importants finalement, pas seulement pour ces personnes, bien sûr qu'elles le sont, mais pour ce que peut-être un vrai enjeu culturel, comme nous l'évoquions au début de cette émission d'ailleurs.
Oui, effectivement. Alors, permettez-moi d'abord de réagir parce que je viens d'entendre trois témoignages, trois initiatives locales et qui me semblent être particulièrement révélatrices de la richesse de l'engagement associatif, de l'engagement humain sur le territoire départemental. Voilà, donc je tiens déjà à saluer cet engagement, cette force, cette richesse et cette générosité. Parce que ça me touche, parce que nous y sommes tous sensibles. Et je peux vous assurer que, véritablement, que ce soit le département de l'Ain, d'abord et en premier lieu, puisque la DIM ne fait, entre guillemets, que s'inscrire et que décliner les choix et les orientations qui sont fixées par le département. Les priorités sont essentielles et elles sont dans ce sens-là. Caroline Terrier a véritablement à cœur de pouvoir garantir l'accessibilité des pratiques sur l'ensemble du territoire départemental, que ce soit en milieu urbain, en milieu rural, l'accessibilité de tous les citoyens aux propositions artistiques. Ça, c'est un point essentiel. Elle souhaite d'ailleurs que soient intégrées de façon plus importante les personnes âgées avec un volet culturel du futur plan senior. La diversité des esthétiques, c'est aussi une priorité et une commande publique, politique. Et enfin, donc l'accompagnement et le développement de l'accompagnement des porteurs de projets par la DIM. Voilà donc, je dirais, les priorités dans lesquelles s'inscrit la DIM en déclinaison des orientations qui sont fixées par le département. Et pour évoquer plus particulièrement l'accessibilité de tous à la pratique artistique, aux pratiques artistiques, alors je dirais déjà que c'est vraiment essentiel, en effet, que tous les publics puissent intégrer les dispositifs de droit commun. C'est en effet essentiel aussi qu'on puisse assurer une mixité des publics dans toutes les actions, dans toutes les pratiques. Alors, j'ai toujours cette image en pensant à l'égalité, l'égalité des chances et à l'égalité de l'accès. Pour moi, l'égalité, c'est pas l'uniformité. J'aime aussi la notion que j'ai entendue de pont en symbole de passerelle entre deux rives. Et je dirais que accueillir des personnes handicapées et leur permettre justement d'accéder à une pratique culturelle, une pratique artistique, c'est essentiel et c'est de faire en sorte, et ce sera notre priorité, que chacun puisse être sur la ligne de départ. Ensuite, il y aura différents parcours, il y aura différentes modalités dans le respect de la diversité, en adaptant les processus avec le talent des éducateurs, des acteurs, de tous ceux qui peuvent accompagner, faire en sorte que tout le monde puisse franchir la ligne d'arrivée. Mais chacun à son rythme, chacun en fonction de ses compétences, de ses possibilités et de veiller que cet objectif soit atteint avec le souci de l'autre, du partage et dans le respect, la compréhension et la meilleure connaissance possible des uns et des autres. On s'enrichira énormément en cela au niveau du département et c'est une priorité voilà, qu'on aura à cœur avec Claire Marinoni de décliner au niveau de la DIM. C'est un objectif qui nous est fixé et que, bien évidemment, on partage avec beaucoup de cœur.
Claire Marinoni, nous arrivons bien sûr petit à petit au terme de cette émission. On sent énormément d'enjeux, effectivement, sur une structure comme la DIM ici. Des enjeux multiples, bien sûr, ce que nous avons évoqué ici en est un, bien sûr, mais il se raccroche à toute la philosophie globale, finalement, de la présence de cette association, avec tout ce qu'elle peut être porteur de synergie. Voilà, vous voyez comment, vous, un petit peu cet avenir. On vient d'entendre Hélène Maréchal aussi, qui nous pose aussi les lignes, en tout cas, fortes, hein, sur lesquels la DIM va travailler également, va s'engager. Mais de votre point de vue à vous, comment vous voyez les choses? Il y a ce 40e anniversaire qu'on vit intensément. Et
oui,
ça,
il y a
ce
40e anniversaire, effectivement, avec plein de projets, plein d'actions. Enfin, 40 en tout cas, pour être voilà, pour symbolique. Être... Madame Maréchal l'a bien rappelé, il y a cet acte fort, il y a ce positionnement fort du département. Nous, comment au niveau de notre mission associative et comment au niveau de la de notre travail avec les partenaires, j'ai envie de dire que nous devons impérativement développer le faire ensemble. Et ce qui nous incombe, c'est d'inventer aujourd'hui ces dispositifs de partage et de création. Moi, je crois beaucoup aux dispositifs type projet de territoire qui peuvent prendre la forme de chantier de création et qui permettent justement de réinterroger des pratiques ouvertes à tous sur tous les territoires. Et le maréchal le disait, rural, urbain, mais pas que, sur toutes les esthétiques. Donc je pense que nous devons relever ce défi qui est de créer des nouveaux dispositifs de faire ensemble.
Nous arrivons donc au terme de cette émission spéciale de Résonance Contemporaine dans le cadre du 40e anniversaire de l'Andy Delin, enregistrée le 9 février dans les locaux mêmes de la DIM à Perona. Merci à Claire Marunoni et à toute son équipe de nous avoir permis de réaliser cette émission. Merci Hélène Maréchal de votre présence.
Merci à vous.
Gérard Boyer, Jean-Paul Godot, Jean-Pierre Barbosa également pour votre présence et vos témoignages. J'étais accompagné aujourd'hui par Nicolas Galliot à la technique et Simon Debord pour la mise en onde. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr écouter la présente émission, la podcaster sur le site de Résonance Contemporaine www.resonancecontemporaine.org ou sur le site de Radio B www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Très belle journée sur Radio B.